Mesdames, Messieurs, je dois commencer par des excuses. Notre matériel est médiocre, pour ne pas dire défaillant. Et je suis obligé, comme dit un de mes amis, de sucer le micro pour que vous ayez une chance de m'entendre. Alors ne m'en veuillez pas et si au fond de la salle, à un moment donné, vous n'entendez pas, vous levez la main et vous protestez. La protestation est une marque de citoyenneté, paraît-il. Alors profitez-en. Merci, Monsieur le Président, de me donner audience, comme on dit au palais. Je vais essayer de m'en montrer digne et de vous raconter l'histoire des Dubarry. Dans l'histoire telle qu'on l'enseigne, ou plutôt qu'on l'enseignait à nos gamins, le roi Louis XV était unanimement présenté comme un individu préoccupé de jouissance sous toutes leurs formes, et notamment de jouissance sexuelle, peu préoccupé de l'avenir de ses concitoyens et de la nation, et un des principaux responsables de la faillite de la monarchie. Parmi les personnages qui concouraient avec lui à cette faillite, on citait habituellement la comtesse du Barry, sa dernière grande favorite en date, et on la clouait au même pilori que le roi, l'accusant d'avoir, par ses agissements, contribué à la faillite générale du pays. Tout cela est évidemment très exagéré, tout cela est outré, de bons historiens se sont déjà mis sur les rangs pour réhabiliter à la fois le roi Louis XV, la monarchie française et la Dubarry. Ils l'ont fait avec un talent que je ne saurais égaler, ils l'ont bien fait, laissons-les à leur travail. Ce que je voudrais, moi, aujourd'hui, essayer de rétablir, c'est un portrait à la fois de la comtesse du Barry et aussi, ce qui expliquera la singularité de mon titre, et essayer de vous donner un panorama de cette famille du Barry. Parce que vous allez le voir, et on l'ignore très souvent, elle a des liens très forts avec le pays toulousain et nous devons prendre conscience de ce que nos ancêtres ont d'une certaine façon participé à cette tragicomédie qui a été celle de la comtesse du Barry. Jeanne Bécu était née le 29 août 1743 à Vaucouleurs. Le fait qu'elle soit née dans un fief qui a partie liée avec l'histoire de Jeanne d'Arc ne la met pas sur le même pied qu'elle, rassurez-vous. Il n'y a aucun rapport entre la pucelle d'Orléans et Jeanne Bécu. Sa mère, dont elle portait le patronyme, était une servante d'auberge qui passait pour peu farouche avec les clients. Quant au père, un voile de mystère pèse là-dessus, mais d'après les hypothèses les plus plausibles, et qui ont été sanctionnées par des décisions judiciaires rendues tardivement, je vous en reparlerai tout à l'heure, le père était probablement un moine. Un moine qui s'appelait Jean-Jacques Gomard, dont fugitivement nous reparlerons tout à l'heure aussi. La mère vint à Paris, c'est banal. Elle était flanquée de la petite Jeanne et d'un petit garçon qui mourut en bas âge. Elle se lança dans une vie de galanterie et elle finit par se faire épouser par un modeste commis aux écritures qui s'appelait Rançon. Il apparaît toujours très délicat de tracer un portrait de celle qui allait régner sur le cœur et les sens du roi Louis XV, parce que son image a été considérablement brouillée. Elle a été brouillée d'abord par un personnage qui s'appelle le duc de Choiseul et qui a laissé des mémoires dans lesquelles il fustige pratiquement à chaque page la mémoire de la comtesse du Barry. Il est vrai qu'il y avait voué une haine inexpiable, qui s'explique d'ailleurs, parce que la duchesse de Gramont, qui était la sœur du duc de Choiseul, aspirait à entrer dans le lit du roi, et il avait été devancé, bien entendu, par la Dubarry, ce qui était impardonnable d'une certaine façon. D'autre part, il est certain que l'histoire, dont je parlais tout à l'heure avec un grand H, tel qu'on l'enseignait au début de la Troisième République, n'était pas favorable aux personnages comme la Dubarry, et on s'est acharné à noircir ces personnages-là pour exalter en quelque sorte la légitimité de la jeune République qui n'allait pas de soi à l'époque. Et la révolution purificatrice arrivant par derrière, on a dressé de la Dubarry un portrait qui ne correspond pas à la réalité. Elle était dépeinte tout simplement comme la Messaline des temps modernes, je reprends une expression qui fleurissait dans les pensées révolutionnaires. On doit en revenir évidemment à un jugement plus nuancé. D'abord, une certitude absolue. La beauté, proprement exceptionnelle, de Jeanne Bécu, tous les contemporains en sont d'accord. Vous avez là un pastel superbe de Fontaine-Latour qui a été réalisé à peu près à l'époque où ses relations avec le roi Louis XV prennent corps. Blonde, pulpeuse à souhait, je cite les mémorialistes du temps, tout en fossette, bouche un rien leste. Elle possède des yeux de feu, des yeux violets, d'autres les ont vus bleus, si joliment fendus qu'ils font battre un peu plus vite le cœur des hommes. Je cite toujours les mémorialistes. Une peau à reflets de nacre, et vous savez que les peaux blanches étaient prisées à l'époque. Un pétale de rose tombé dans du lait, dira un mémorialiste. Bref, une grisette, jolie, friponne, bien éveillé, tels sont les propos que l'on relève dans les écrits des contemporains. Une autre certitude, c'est, l'intelligence. Non, ce n'est pas cela. Le savoir-vivre, le savoir-faire qui était si en vogue dans ce XVIIIe siècle, elle a été servie par une bonne éducation. Reçue jusqu'à l'âge de 15 ans chez les religieuses de Saint-Or, où l'avait placé le financier Billard de Monceau, qui était un des amants de la mère, et il a su profiter avec adresse des fréquentations de quelques beaux esprits qui se réunissaient chez Madame de Delay de la Garde, qui était la veuve d'un fermier général, chez qui elle avait été placée à l'âge de 16 ans comme femme de chambre. Mais chez cette Madame Delay de la Garde, les choses ont mal tourné parce que très vite, les trois garçons de la maison, et même la fille, ont tourné de très près autour d'elle. Et dans le fond, on est en droit de se demander si ce n'est pas le virage dans l'existence de Jeanne Bécu. Elle a été obligée de quitter ce poste, et elle fut embauchée à ce moment-là chez un modiste qui s'appelait Mabille, qui était en vogue à l'époque, mais qui était très près du palais royal. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, le palais royal, c'était le lieu de toutes les galanteries, de toutes les perditions. Mais elle ne fut pas, comme on le prétend dans certaines histoires, une des pensionnaires de ce que l'on a appelé le sérail de la femme Gourdan. La femme Gourdan, c'était une Madame Claude, mais une Madame Claude de l'époque, hein, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus vulgaire. Ce n'est pas cela. Elle ne fut pas la pensionnaire. Mais, il suffit pour noircir son image de dire qu'elle rencontra et qu'elle tomba au pouvoir d'un personnage qui est le personnage central de toute cette histoire, de Jeanne Dubarry. De Jeanne Dubarry, qu'un auteur de l'époque a qualifié de maquereau du beau monde, qui était à juste titre surnommé le roué. Alors, je vous lis ce qu'un mémorialiste du temps a écrit sur le roué, parce que il faut bien comprendre ce personnage. C'était un homme au dehors séduisant. Il a beaucoup d'esprit, la répartie vive et heureuse, de l'impertinence élégante. Il est frivole et beau parleur. Il connaît tous les détours de la galanterie. Grand faiseur de dupes, il ne s'encombre d'aucun scrupule. Il affiche la licence et ne s'arrête devant aucune considération pour satisfaire ses passions. Il me semble que la description est suffisamment évocatrice pour que je n'aie pas besoin d'ajouter grand-chose. Nous allons le voir à l'œuvre. On ne sait pas, au juste, comment, dans quelles circonstances, le roué entra en relation avec la belle enfant, la belle enfant qui allait faire sa fortune. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il en fit sa maîtresse, qu'il en devint en quelque sorte le souteneur, et on ignore encore davantage dans quelles circonstances le roi Louis XV fit la connaissance de Jeanne Bécu. C'est probablement un hasard qui fit que le roi la remarqua, le reste allait de soi-même, le valet qui était le pourvoyeur, oserais-je dire, des plaisirs de sa majesté, n'eut aucune peine à entrer en contact avec le roi, qui ne se fit pas prier pour lui céder la fille et les avantages qui en découlaient. Le vieux roi, et oui, il avait, cela vous étonnera que j'emploie cette épithète de vieux, mais il avait 59 ans, ce qui à l'époque était considéré comme le seuil de la vieillesse. Le vieux roi, disais-je, fut d'emblée conquis, au-delà de toute espérance, par le savoir-faire de sa jeune partenaire. Elle lui devint très vite indispensable, au point qu'il lui parut hautement désirable qu'elle fût présentée à la cour. La cérémonie de présentation obéissait à un certain nombre de règles qu'il fallait à tout prix respecter. Il fallait que la personne présentée soit mariée et qu'elle soit noble. Toute condition que ne remplissait pas à ce moment donné la nommée Jeanne Bécu. Il fallait donc marier la maîtresse du roi et il fallait que ce mariage l'annoblisse. Pour parer au plus pressé, avec quelques tourderies, le roué l'avait présenté à la cour, l'avait présenté comme la comtesse du Barry, ce qui sous-entendait qu'il était le mari, lui. Mais il ne pouvait pas être le mari, Jean du Barry, parce que il avait une femme et des enfants même. Mais il les avait oubliés depuis une dizaine d'années. Mais l'état civil, l'embryon d'état civil tel qu'il existait à l'époque, ne l'avait pas oublié, lui. Il fallait donc au plus vite trouver une solution et s'apprêter, parce que voyez-vous, je vous ai cité tout à l'heure la duchesse de Gramont qui était sur les rangs pour devenir favorite du roi, mais il y avait une autre prétendante très très pressée elle aussi, qui était Madame de Genlis. Madame de Genlis, vous savez, elle avait un tableau de chasse suffisamment fourni et évidemment elle songeait à le couronner par le roi, tout le monde et avait ses ambitions. Et Madame de Genlis, qui soupçonnait quelque chose pas claire, venait d'écrire au procureur général de Toulouse, à bon repos Riquet, pour s'enquérir de l'emploi de l'état civil du roué. Donc, il fallait à bref délai porter remède à cette situation vaudevillesque par beaucoup de côtés, et lourde de conséquences pour notre roué, qui entendait, mais vous l'avez compris, tirer des profits considérables des succès nocturnes de sa protégée. C'est de cette façon que la famille du Barry entre en scène. À Lévignac-sur-Save, charmante bourgade en bordure de la forêt de Boucogne, que nombre d'entre vous connaissent, existait au XVIIIe siècle une grande maison qu'on appelait le château. Elle existe toujours, encore que les fantaisies des architectes en charge de la survie de notre patrimoine aient causé aux injures du temps pour la défigurer gravement. Voilà l'allure qu'elle a pris maintenant, on la dirait une maison de maître à Malte ou à Rhodes. En 1768, habitait en ce lieu, alors on va essayer de comprendre un peu la famille du Barry. En 1768, c'est l'époque où nous sommes, n'est-ce pas, habitait en ce lieu Catherine de la Case Certa, veuve depuis bientôt 25 ans, de noble Antoine du Barry. De lui, elle avait eu 6 enfants, dont 3 vivaient auprès d'elle. L'aîné, c'était Jean, nous en avons parlé. Venait derrière Guillaume, qui va être le héros, si on peut dire, de notre affaire. Guillaume, 36 ans, Il menait une existence calme et champêtre après une carrière militaire bien remplie, ma foi. Célibataire, chétif et malingre, il paraissait se complaire dans une existence toute de désœuvrement. La chasse pour enrichir le maigre ordinaire de la famille et quelques escapades galantes à Toulouse suffisaient à son bonheur et rythmaient la monotonie de son existence. Derrière, il y avait Françoise. Françoise, qu'on appelait Chaune, était laide, petite, mais sa vive intelligence va lui permettre de prendre avec bonheur auprès de sa belle-sœur des fonctions enviables d'intendante. Marthe, surnommée Bitchy, on avait beaucoup de surnoms dans la famille, surnommée Bitchy était d'un physique agréable, mais d'une sottise évidente. La maigreur de la dot de ses deux filles les condamnait vraisemblablement à un célibat éternel. Une autre fille avait épousé le consul, c'est-à-dire le maire de Lévignac. Elle n'intéressera pas notre histoire. Et Élie, le cadet, était au service et guerroyait quelque part. L'aîné, nous l'avons dit, c'était Jean-Baptiste, dit le Rouet, nous le connaissons, il courait l'Europe. En quête d'aventures galantes et lucratives, il avait abandonné, je vous l'ai dit, femme et enfant au logis. Ici, à ce point de mon histoire, les historiens divergent. Certains prétendent que Jean-Baptiste écrivit à Lévignac en exposant la situation et en intimant l'ordre à son frère Guillaume, le seul célibataire disponible, de monter au plus vite à Paris pour épouser la maîtresse du roi. D'autres nous enseignent que le Rouet bondit dans une chaise de poste et courant au danger, arriva à Lévignac pour arriver à ses fins. C'est cette seconde thèse qui nous paraît seule plausible. Il est hors de question qu'une affaire aussi scabreuse et pu se régler dans une missive dont le sort était à l'époque bien aléatoire. Comment croire que le Rouet ait pu exposer une intrigue aussi délicate et embrouillée dans une prose inévitablement succincte? Voici donc le Rouet qui, un beau jour, se présente au château de Lévignac. J'hésite. Quel mot employer pour décrire cette scène étrange qui va se dérouler? Il y avait bien 10 ans que Jean n'était pas réapparu dans sa famille, et on l'avait presque oublié. Et voici qu'il surgit, affairé, fiévreux, ému, et que, vraisemblablement sans s'attarder en futiles épanchements, il décrit une situation qui atterre ceux qui l'écoutent. Il y a là sa mère, ses sœurs, son frère, et il expose devant cet auditoire provincial un étrange roman où il est question de la cour, du roi, de Versailles, et de l'argent. Et de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, figurez-vous la scène. La vieille mère, en bonnet, muette de surprise. Le frère, attentif, mais ahuri, intéressé, c'est lui le principal. La géniale spéculation qu'on leur propose. Une telle machination ne peut que donner le vertige à des esprits jusqu'alors uniquement préoccupés des petits commérages de Lévignac. Le roi, la cour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait là de quoi griser des têtes moins chaudes et tenter des appétits moins voraces. Il dut y avoir des objections. Il dut, cette jeune bécue, sortie du trottoir. La noble dame de Lévignac ne pouvait avoir qu'un mot le cœur quand on parlait de tout cela devant elle. Mais comme le dira dans quelques années Beaumarchais, il le fera dire à Basile, ils avaient des arguments auxquels on ne résiste pas. De l'argent, beaucoup d'argent. Et on se laissa convaincre. Le lendemain, après un petit séjour chez le notaire du coin, sans autre forme de procès, le roi est mis dans une voiture, son frère Guillaume, les deux sœurs, à toutes fins utiles, on ne sait jamais, ça peut servir, il faut être coché le plus rapidement possible pour rejoindre Paris. Et on arrive à Paris, c'est dans l'appartement de Jean, rue Neuve des Petits Champs, que Guillaume fera la connaissance de celle qu'il faut bien appeler son épouse. Et on peut penser qu'il dut être ébloui par la beauté qui lui était présentée, d'autant plus qu'elle était en grande toilette, et que, au fond du cœur, il eut chez ce personnage un peu de rage, un peu de honte aussi, de voir quel rôle on lui faisait jouer. Le mariage religieux n'eut lieu qu'au mois de septembre, et là on voit apparaître au moment du mariage le moine Gomard dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui est un argument en faveur de sa paternité, et il s'intitule d'ailleurs, sans vergogne, « prêtre aumônier du roi ». Ce n'est qu'une falsification d'un acte où tout est faux. Dans la plupart des récits, on dit que le comte Guillaume, aussitôt après la cérémonie, reçut, avec un brevet de pension de 5000 livres, l'ordre de regagner sa retraite provinciale et de n'en plus sortir. Cette affirmation est inexacte. Il demeura à Paris un temps suffisant pour que, profitant de sa situation financière brusquement florissante, il puisse bénéficier de ce qu'on appelle pudiquement les joies de la capitale. Une brève liaison avec une demoiselle Marguerite Lefebvre provoqua la naissance en 1769 d'un fils, Alexandre, surnommé, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de surnoms, surnommé Lolo. Ce garçon qui embrassa avec bonheur la carrière militaire fut avant sa mort en 1837 un des fondateurs de la Société Nationale Archéologique. À Toulouse, quand Guillaume revient, l'accueil est glacial. Les mœurs de la province étaient en décalage avec l'existence dissolue qui était l'ordinaire à Versailles. Pourtant, en 1771, le hasard permit à Guillaume de connaître un sursaut de popularité à Toulouse. Il sauva de la pendaison une femme qui, au cours d'une rébellion due à la cherté du pain, avait frappé un capitoule qui s'appelait Esparbès. Et cette circonstance, évidemment, lui valut la popularité, mais lui ferma définitivement la porte de l'aristocratie. En 1772, vous voyez que les choses n'ont pas duré longtemps, 3 ans après à peine, Guillaume plaida et obtint la séparation judiciaire d'avec la comtesse son épouse. En échange, si on peut dire, il obtint un pactole de 60 000 livres de rente. 60 000 livres de rente. Dégagé en quelque sorte de cet encombrement mariage, et vivant désormais dans l'opulence, Guillaume remonte à Paris. Il s'installe avec un certain faste. Il vit bientôt afflué, en rentrée fournie, des parents ignorés et des amis de fraîche date. En face de sa demeure, logé modestement, une ouvrière, réduite à la misère par un veuvage prématuré. Elle s'appelait Madame Dio. Elle s'avisa qu'au moment de la visite chez Guillaume, elle se ferait accompagner par sa sœur, Madeleine Lemoine. C'était une brune piquante de 19 ans qui plut à Guillaume et qui remplaça sa femme dont il était séparé par Madeleine Lemoine, qu'il ramena très rapidement à Toulouse, un fils naquit de cette liaison, Victor, dit Coco, décidément on n'en sort pas, mais qui mourut en 1794. La mère et l'enfant partirent à Toulouse, bientôt suivis par le père, qui avait définitivement épuisé les plaisirs de la capitale. Jean, l'instigateur de la fructueuse machination, n'avait pas manqué de profiter de la rupture du lien conjugal de son frère pour se faire octroyer le comté de l'Île-Jourdain, dont le revenu annuel dépassait 100 000 livres, pactole qu'il s'employa à dilapider consciencieusement en extravagance. Au nombre de ses folies, on doit citer la construction de son palais toulousain place Saint-Raymond, nous en reparlerons, actuelle place Saint-Cernin. Cet étrange immeuble existe toujours, vous le savez, il est inclus dans le lycée et, périodiquement, on s'interroge sur sa destination future. L'immeuble a perdu les délires décoratifs dont ce bourgeois prétentieux l'avait pourvu et vous passez devant sans vous rendre compte le plus souvent que cet immeuble a une histoire. Mais, me direz-vous, et Jeanne dans tout cela? Qu'est-ce qu'elle devenait? Elle régnait non seulement sur le roi, dont elle charmait les jours et les nuits, mais aussi d'une certaine façon sur la France. Voilà le roi Louis XV à l'époque de sa liaison. Vous voyez quand même que je l'ai traité de vieux roi tout à l'heure, j'ai peut-être exagéré, il a encore de beaux restes. Parfait. Continuons. Voilà un portrait par Drouet de la comtesse du Barry dans toute sa splendeur au moment où elle règne, comme je viens de le dire, sur le cœur du roi. Voilà un autre portrait qui n'est pas très net, d'ailleurs. C'est un portrait de Greuze. Un autre. Et voilà une réplique conservé à Louessienne du buste de la comtesse réalisé par Augustin Pajou. L'original est au musée du Louvre. Allez-y. La liaison du roi et de la du Barry a inspiré de nombreux artistes, même étrangers, et on trouve à Budapest cette peinture d'un certain Benksur qui veut représenter Louis XV et sa maîtresse dans le boudoir de celle-ci. Peut-être le jour où on prête à Louis XV ce fameux mot apocryphe, France, ton café fout le camp, pardon. Et le dernier portrait, voilà le portrait de Drouet, un autre portrait de Drouet, qui est peut-être le plus significatif et le plus représentatif de ce que fut la comtesse du Barry. Oui, je disais donc que, trop avertie des choses de la politique, elle n'était que l'instrument inconscient des coteries qui se disputaient âprement le pouvoir, apportant son aide aux uns et aux autres, plus par emballement que par calcul. Certaines de ses inventions furent heureuses, d'autres calamiteuses. Elle contribua à la disgrâce de Choiseul, mais nous avons compris pourquoi. D'après ce que je vous ai dit de Choiseul. À la faveur du duc d'Aiguillon et du chancelier Maupoux, ainsi qu'à l'exil des parlements en 1771. Elle dilapida, c'est certain, des sommes colossales obtenues pour elle ou pour ses proches. Pour elle, à Louessienne, le roi fit construire par Ledoux ce merveilleux pavillon, un des joyaux de l'architecture du XVIIIe siècle. Nous allons nous arrêter un instant sur Louessienne. Voilà le pavillon des Eaux, l'immeuble préexistant à Louessienne. Et voilà le pavillon de musique qui fut construit par Ledoux. Le voilà nuitamment, vous voyez cette architecture très typique du XVIIIe siècle, rayante à l'époque. Voilà une vue de l'intérieur. Vous voyez la qualité de la finition et de la réalisation de cet intérieur. Voilà encore une vue du salon de musique. Autre vue intérieure. Et voilà une commode qui a appartenu à la comtesse du Barry et qui est un véritable chef-d'œuvre. Le meuble comporte en façade trois panneaux en porcelaine de Sèvres peints par Charles-Nicolas Daudin. Ce sont des reproductions au centre d'un portrait de Pater qui représente l'agréable société, à gauche de Nicolas Lancret, une conversation galante, et à droite par une tendre chansonnette du même Lancret. Le meuble, l'original, est actuellement conservé au musée du Louvre. Voilà le détail d'un bol à ponche d'un service en porcelaine de Sèvres portant le monogramme de la comtesse qui est actuellement conservé à Louveciennes. Et là, vous avez le modello d'une fresque qui devait être réalisée par Fragonard à Louveciennes et qui s'appelle la partie de Clignemusette. Le Clignemusette, c'était le Colin Maillard. Hein. Il est conservé, ce modello, au musée de Nantes. Voilà une robe de chambre en soie de la comtesse du Barry. Nous avons ainsi fait le tour de la splendeur de l'installation de la comtesse du Barry à la cour. C'est une fin de l'acte 2 qui pourrait avoir pour titre la prospérité. La mort de roi Louis XV provoqua une série de débandades et un mot courait Paris. À ce moment-là, il n'est pas très bon, mais je vous le cite quand même. Cette année, les tonneliers auront fort à faire, tous les barils fuient. Donc, le roi fut atteint en 1774 de la variole, que vous le savez, qui vous le savez, portait à l'époque le nom de Petite Vérole. Et la petite vérole sévissait à l'époque à l'état endémique. L'agonie fut longue et c'est volontairement que le souverain éloigna la favorite. Mais le 9 mai, le roi étant toujours vivant, le duc de la Brière a pris deux lettres de cachet, l'une contre le rouet, qui était en fuite, l'autre contre la comtesse qui prit le chemin de l'abbaye du Pont aux Dames. On doit rappeler que, prélude à la Grande Révolution, la mort du roi ne suscita guère dans le pays qu'irrespect et ironie. Partout, on chantonnait. La vérole par un bienfait a mis Louis XV en terre. En 10 jours, la petite a fait ce que pendant 20 ans, la grosse n'a pu faire. Les proches de la comtesse souffrirent au cours de cette période de diverses persécutions, évidemment. À Toulouse, le comte Guillaume fut hué par la foule. Il jugea prudent de se retirer sur ses terres, hors de la ville. Les deux belles sœurs, Chaune et Bichy, chassées de Versailles après s'être réfugiées à Paris, gagnèrent Toulouse où elles purent acquérir le château qui est devenu sur les flancs de la colline de Purpan. Les historiens en général écrivent par Pan, je ne sais pas pourquoi, qui est devenu, disais-je, sur les flancs de la colline de Purpan, l'école d'agriculture. Quant au rouet, il réussit à déjouer toutes les recherches et se réfugia en Italie, en proie à d'inévitables difficultés financières. Il n'eut d'autre ressource que de vendre son fief de l'île Jourdain, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au futur Louis XVIII. Bientôt autorisé à rentrer en France, il se retira, lui aussi, à Toulouse. Madame du Barry menait à, d'abord au Pont aux Dames, une existence tout à fait paisible et tout à fait calme. Si bien que, au bout d'un an, elle demanda et obtint la permission de quitter l'abbaye de Pont aux Dames et elle acquit un château, le château de Saint-Vrain, où elle menait là aussi une existence de châtelaine paisible mais néanmoins fastueuse. La plupart des relations qu'elle avait nouées autrefois à la cour revenaient vers elle. C'est une preuve que cette femme, tant calomniée, avait à n'en pas douter des qualités de cœur et aussi d'esprit, car si on la fréquente à ce moment-là, ce n'est pas pour attendre d'elle des faveurs, elle n'est rigoureusement plus rien. Elle n'est qu'une proscrite bannie de la cour. Et haïe de surcroît par la dauphine future reine Marie-Antoinette. Bien sûr, quelques bonnes feuilles lui prêtent quelques aventures galantes, mais l'historien rigoureux ne peut pas ajouter foi à ses ragots. Tout indique au contraire que sa conduite fut exempte de dérèglement et que cette abstention fit partie de ce que nous appellerons sa pénitence. Peut-être en raison de cette conduite parfaite, en octobre 1776, la sévérité royale céda. Le roi Louis XVI, on le sait, était incapable d'une sévérité de longue durée. Madame du Barry retrouvait tous ses biens personnels, notamment ses bijoux, dont nous reparlerons avec abondance dans un instant, qui étaient estimés à la somme considérable de 2 millions de livres. Elle retrouvait aussi la jouissance de l'essentiel de ses revenus et revint s'installer à Louveciennes, on disait Lucienne à l'époque, après avoir revendu le domaine de Saint-Vrain. Pour les membres de la famille du Barry également, la tourmente avait été de courte durée, car, on le redit, le roi était bonhomme. C'est d'ailleurs ce qui le perdit. Guillaume du Barry avait fondé une vraie famille avec Madeleine Lemoine. Il coulait des jours heureux, tantôt dans un hôtel qu'il avait acquis rue du Sénéchal, tantôt dans le merveilleux domaine de la Reinerie, et est-il besoin de le dire, était alors champêtre à souhait. Vous connaissez tous au moins un photographie ce domaine de la Reinerie qui, pour son malheur, est situé dans des conditions un peu scabreuses à l'heure actuelle. Sean et Bichy, l'autre, non, en arrière. Sean et Bichy avaient également reçu leur part de la manne royale, devenues vieilles filles quelque peu acariâtres, mais toujours avides d'un luxe tapageur. Elles acquirent un hôtel en plein centre de Toulouse, entre la rue de la Paume et la rue du Four-Bastard. Cet hôtel fut détruit au moment du percement de la rue Alsace, et aussi et surtout l'hôtel de Purpan dont je viens de vous parler il n'y a qu'un instant. Quelle que soit l'ampleur des profits que le rouet avait retirés de son placement, comme nous l'avons dit, il les dilapida. Avec une rapidité qui, s'agissant d'un personnage de sa trempe, n'a rien d'étonnant. Devenu veuf, ce diable d'homme fut encore assez habile pour épouser une demoiselle de Rabaudy-Montoussin, noble, très jeune, très jolie. Avec elle, il semble que le rouet eut l'intention seulement, de recommencer ce que j'appellerais le coup de Jeanne Bécu et de Louis XV. Mais le roi Louis XVI n'était pas partie prenante à ces parties de galanterie. Il était vertueux, et la belle que le rouet avait amenée à la cour en fut quitte pour contenter le ministre Calonne, qui fut un des ministres des Finances de la fin du règne, vous le savez. Décidément, le rouet pensa que le monde avait bien changé, et il se retira, lui aussi, à Toulouse. On se demande par quel miracle et au prix de quels expédients ce fripon put se maintenir dans l'hôtel que vous voyez là, dans l'hôtel de la place Saint-Cernin. Pour la comtesse du Barry, commença alors ce que l'on peut considérer comme la période, sinon la plus heureuse, tout au moins la plus paisible de sa vie. Elle est chez elle. Elle n'a que 33 ans. Elle est encore fort belle, encore que ses formes aient pris un certain embonpoint sans perdre de leur élégance. Elle a, nous disent les contemporains, conservé ses yeux charmants et son joli teint. Au témoignage de tous ceux qui l'approchèrent alors, on souligne la décence de son ton, la noblesse de ses manières, et se maintient également éloigné de l'orgueil comme de l'humilité. Le comte d'Espinchal ne manque pas de souligner que, je cite, « ses charités dans le village de Lucienne et dans tout le canton sont immenses. Son prestige est intact au point que l'empereur d'Autriche, Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, venant en France, négligera une visite au duc de Choiseul et ira voir la comtesse du Barry longuement dans son château de Louveciennes, et en prenant congé d'elle, il ne manquera pas de lui dire « Madame, de toute façon, la beauté avec vous sera toujours reine. » Peu à peu, stimulée par les amis qui l'entourent, Madame du Barry retrouve le goût de réception et aussi du jeu qui fut sa grande passion, et aussi de l'amour. Un riche anglais, beau comme un dieu, dit-on, parfaitement élégant et distingué, Henri Seymour, est devenu son voisin puisqu'il a acheté le château de Prunay près de Port-Marly. Il lui semble qu'elle aime, pour la première fois, sans réticence, sans calcul, qu'elle se donne avec un élan qu'elle n'avait jamais connu. Cette passion partagée va durer 2 ans et finira de façon orageuse car la jalousie de Seymour fut éveillée par l'assiduité auprès de la comtesse d'un personnage considérable. Fort bel homme, de manière noble et affable, avec une réputation bien établie de galanterie, quoique plus âgé d'elle d'une 20aine d'années, il avait fait une cour discrète. Connaissant la liaison avec Seymour, un homme du XVIIIe siècle, il n'avait pas cherché à s'immiscer dans les détours du cœur féminin. Il s'appelait Louis Hercule Timoléon de Cossé, duc de Brissac. Pourtant, Seymour se crutaillit et, fou de douleur, s'enfuit. Jeanne du Barry avait besoin d'un grand calme, d'un apaisement. Brissac, gouverneur de Paris, colonel des 100 Suisses, installé près d'elle, lui apporta tout cela et pendant 16 ans, cette union sera sans nuage, sans querelle, sans défaillance. Les choses allèrent ainsi jusqu'au grand bouleversement de la Révolution pour un nouvel acte que j'appellerai quatrième, profondément tragique. À Toulouse d'abord, Guillaume adhéra aux idées nouvelles comme beaucoup d'aristocrates. Il devint colonel de la Légion de la Garde nationale du Thor. Pendant que Jean, totalement insouciant, continua de mener avec une belle indifférence une existence de jouisseur. Mais le temps des orages était proche, et inexorablement les du Barry allaient être victimes de la défaveur, de la faveur royale dont avaient bénéficié la femme et eux-mêmes. Le 4 septembre 1793, Guillaume fut arrêté le premier et conduit à la prison de la Visitation, rue de Périgord. Le motif de cette arrestation était simple, il figure sur l'écrou d'ailleurs, aristocrate. Son frère Jean ne tarda pas à l'y rejoindre, puis, pour faire bonne mesure, Madeleine Lemoine fut à son tour incarcérée à l'ancien couvent des chanoinesses de Saint-Cernin. Et enfin, le 10 octobre, Schon et Bichy furent incarcérés. On lit sur le registre d'écrou, fille d'un naturel immoral, regrettant fort l'ancien régime. Jean, nous le savons, aimait ses aises, Il fit venir en prison ses meubles, sa vaisselle, et pour continuer à faire bonne chère, il dilapida ses dernières ressources et usa même des derniers 700 francs que possédait son frère. Il était ruiné, et derrière lui, il laissait un océan de dettes. Le 14 janvier 1794, le tribunal révolutionnaire de Toulouse se réunit, et Jean-Baptiste du Barry fut son premier, client. L'accusateur public, le trop célèbre Capel, n'eut aucun mal pour déchaîner les foudres de cette parodie de justice. Condamné à mort, le roi fut décapité sur la place du Capitole le 17 janvier 1794. On n'avait pas puni un crime particulier contre la Révolution, mais on avait sanctionné un style de vie, celui de la cour de Versailles, celui de la dissipation. Le temps passa, les cachots se vidèrent, les membres de la famille du Barry retrouvèrent la liberté, mais ils étaient dépouillés de leurs biens, ils n'eurent de cesse que se replier à Lévignac. Seul bénéfice, s'il est permis d'employer ce mot, Guillaume fut bientôt veuf, et nous allons le raconter, puisque la guillotine parisienne le débarrassa de la belle comtesse dont il avait été le mari purement honoraire. Il put alors épouser Madeleine Lemoine. Il nous faut maintenant vous narrer les événements qui conduisirent cette Jeanne du Barry au supplice. Événement particulièrement douloureux et tragique. Il était fatal qu'elle soit une des victimes de la terreur aux yeux de ces révolutionnaires qui se voulaient tellement vertueux. Elle était le symbole encore vivant de la dépravation du régime monarchique. Elle devait donc mourir. Mais force est de constater que, par son inconscience, elle aida considérablement ses bourreaux. Dès le mois d'octobre 1789, quelques libelles hostiles à l'infâme Messaline, comme je vous ai dit tout à l'heure, circulent. Mais après tout, l'ex-favorite a pris l'habitude de ses sarcasmes et n'y prêta pas beaucoup d'attention. L'année 1790 fut paisible. Bien qu'ayant des revenus réduits, Madame du Barry n'en continuait pas moins ses charités, qui lui valaient tant de popularité à Louveciennes, et pour reconstituer son capital, elle vendit une partie de ses bijoux à des bijoutiers joailliers hollandais qui s'appelaient les Vandenivers. Hélas, nous les retrouverons. Car cette affaire sera retenue à charge par le tribunal révolutionnaire. Et le tournant de son existence se produit le 10 janvier 1791. Cette nuit-là, elle est à Paris, auprès de Brissac, et pendant qu'elle se trouve à Paris, on cambriole le château de Louveciennes et on vole la totalité de ses bijoux. Les circonstances dans lesquelles le vol a été réalisé montrent à l'évidence qu'il n'a pu être accompli que par des voleurs ayant bénéficié de la complicité d'un ou de plusieurs membres de l'entourage de la comtesse. Alors, il y avait deux façons de se comporter. Étant donné les circonstances, la première, c'était de se taire, de mettre profil bas, et de parler aussi peu que possible, non seulement du vol, mais de son importance. La seconde voie, c'est hélas celle que Madame du Barry et son sceau de bijoutier choisirent, c'est de faire un grand tapage et d'étaler dans toutes les feuilles, dans tous les moyens qu'il y avait à l'époque de communication, la valeur des bijoux. C'était évidemment le moyen de faire en sorte que les révolutionnaires braquent leur feu de nouveau sur Madame du Barry, c'est ce qu'il ne manquera pas de faire. Bientôt, les voleurs furent arrêtés à Londres et on retrouva en leur possession la quasi-totalité du butin. Cette découverte incita Madame du Barry à se rendre en Angleterre pour essayer de reprendre possession des bijoux qui lui avaient été volés. Vous savez, la Grande-Bretagne n'a jamais été favorable à un échange judiciaire ou... et elle vit sous blanc. Elle ne retrouva rien du tout. Mais, étant en Angleterre, elle fréquenta qui ? Des Français. Ces Français étaient tous des royalistes. Et parce qu'ils étaient royalistes, ils étaient émigrés. Et vous savez qu'à l'époque, l'émigration était punie de la peine de mort. Donc, Madame du Barry fréquente des émigrés. Est-ce qu'elle leur apporte des secours financiers ? Peut-être. Peut-être. Nous n'en savons rien. Elle revient en France. Cette fois-ci, elle doit pouvoir constater que les pamphlets sont devenus très nombreux, beaucoup plus venimeux, beaucoup plus violents, et qu'ils insistent très lourdement sur la fortune énorme qu'a pu faire cette femme sur le dos des citoyens français. Elle repart pourtant en Angleterre. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est suivie, surveillée. Tous ses faits et gestes sont notés par, d'une part, un agent qui doit être très probablement stipendié par la Convention nationale, et d'autre part, on voit apparaître très rapidement un personnage très curieux. On ne sait pas d'où il sort. Il est américain, il s'appelle Grave, et il a juré la perte de la du Barry. Et il va le faire avec un acharnement, avec une compétence tout à fait exceptionnelle. La du Barry repart donc pour Londres. Elle n'a pas plus de succès à cette seconde visite qu'à la première. Et lorsqu'elle revient en France, elle va éprouver encore quelques moments de tourment extraordinaire. C'est Brissac qui va les lui procurer, hélas. Brissac, nous l'avons dit, est un personnage considérable. Il va être nommé chef de la garde de Louis XVI, la garde constitutionnelle. Cette garde constitutionnelle ne vivra qu'un temps, vous le savez, puisque dans son délire anti-monarchique, la Convention le réduira progressivement à une peau de chagrin. On destituera Brissac. On le considérera comme anti-révolutionnaire, on l'arrêtera et on l'enfermera. Et puis, on le promènera, il n'y a pas d'autre mot, de prison en prison. Et quand, à Versailles, lors d'un transfert, une populace avinée se précipite sur l'escorte s'en va, fuit, et on se saisit de Brissac, on le met à mort, dans des conditions atroces, on le décapite, on met sa tête au bout d'une pique et on amène la tête de Brissac au bout de la pique à Louveciennes et on la jette aux pieds de Madame du Barry. Madame du Barry écrira à la fille de Brissac: « J'ai appris ce soir-là qu'on ne mourrait pas de douleur. » Quelque temps après, longtemps après, à la fin du XIXe siècle, lors d'une fouille réalisée dans le parc de Louveciennes, on trouvera un crâne humain, soigneusement empaqueté et enterré. On veut croire que, comme autrefois la reine Margot le fit pour son amant Lamolle, Madame du Barry avait pieusement enterré la tête du duc de Brissac. Mais je reviens à l'odyssée de cette malheureuse, il n'y a pas d'autre mot. Elle va faire un troisième voyage à Londres. Et cette fois-ci, nous sommes au début de ce qu'on peut considérer comme la pré-terreur. Et elle se trouve à Londres au moment où le roi Louis XVI vient d'être guillotiné. Il y a un service funèbre qui est fait en grande pompe à Londres. Elle y assiste. En grand deuil. Tout cela est noté par les espions. Et il est à peu près certain qu'à partir de ce moment-là, elle va aider financièrement les émigrés. Elle revend une partie de son écrin par l'intermédiaire des bijoutiers Van den Hiver que j'ai déjà cités. Que fait-elle de cet argent? Très probablement, elle l'investit en Angleterre. Nouvelle charge. Et quand après un quatrième séjour à Londres, elle se décidera à rentrer en France, elle prendra une décision abominablement stupide. Parce que la situation s'est envenimée considérablement, le château de Louveciennes est sous séquestre, son petit nègre, vous savez que l'habitude s'était instaurée au XVIIIe siècle d'embaucher des petits négrillons comme serviteurs. Et elle n'avait pas manqué de respecter les convenances et elle avait embauché un certain Zamor. Je crois que nous avons un portrait, non? Non, je n'ai pas le portrait de Zamor. Bon. Je crois. Alors, ce Zamor, qui avait été de toutes les faveurs de Madame du Barry, lui vouait une haine considérable pour le moment et il fut l'allié objectif de Grève dans la perte de Madame du Barry. Il ne fallait pas qu'elle rentre. Elle était en Angleterre. Il fallait laisser s'écouler le temps, jouir de ses bijoux si elle les avait retrouvés, sinon attendre les retrouver et attendre que tout ça se passe. Madame du Barry ne le comprit pas. Elle rentra. Et elle eut à affronter une situation qui était en tout point défavorable. Je vous l'ai dit, château saisi et elle-même décrétée d'arrestation. Dans un premier temps, elle s'en tire, si vous me permettez cette expression. Elle obtient un certificat favorable du comité de sûreté générale. Peut-être avait-elle charmé son interlocuteur. Mais Grève intervient. Et la loi sur les suspects donnant un argument supplémentaire à ceux qui poursuivaient la perte de la comtesse du Barry fait en sorte que elle est arrêtée. Elle est arrêtée et son procès vient devant le tribunal révolutionnaire. Parmi tous les dossiers qui ont été soumis au tribunal révolutionnaire, on est obligé de concéder que celui qui a été concocté par Grève est un chef-d'œuvre. Dans l'arsenal d'une législation apaisée, Madame du Barry n'aurait rien risqué. Dans l'arsenal révolutionnaire, elle risquait 14 fois la peine de mort. C'était plus qu'il n'en fallait. Je ne raconterai pas son procès. Elle fut condamnée à mort. Voilà son portrait, à peu près à cette époque de son arrestation. Vous voyez qu'elle a considérablement vieilli. C'est presque une femme d'âge. On ne retrouve pas les traits du pétale de rose tombé dans le lait. Je suis trop sévère.
Oui.
Voilà, bon. Eh bien, donnez-moi tort. Je vous laisse donc la regarder. Voilà la du Barry arrêtée, condamnée à mort. Alors, ici, ce qui a donné une résonance si horrible à ce drame, c'est l'attitude de Madame du Barry face à la mort. La description qui nous est proposée habituellement repose sur des témoignages qui ne sont pas tous dépourvus d'arrière-pensée. Mais si le mot fameux que l'on rapporte à satiété, encore un moment, monsieur le bourreau, a été fabriqué, il n'a jamais été prononcé. L'idée qu'il exprime n'est que trop juste. Elle avait aimé la vie passionnément, et elle comprit soudain qu'il ne lui restait plus que quelques instants à vivre. Elle perdit pied. Que nul ne lui jette la pierre, qu'aurions-nous fait en pareille circonstance? Elle crut que l'abandon de ses richesses lui vaudrait la vie sauve. Elle proposa tous ses bijoux. Elle ne fit que retarder le moment de son supplice. C'était le 8 décembre 1793. C'est presque un anniversaire aujourd'hui. La nuit tombée, et par un fort pénétrant, elle fut conduite à l'échafaud. Les trois banquiers Vandenhiver l'accompagnaient, voilà une gravure de l'époque, l'accompagnaient dans cette charrette tragique. Contrairement à ce qu'avancent certains auteurs, l'ex-favorite ne se répandit pas en cris à l'aide pendant le trajet, elle est au contraire, ce sont les mémoires du bourreau qui nous l'enseignent, elle était au contraire prostrée et le bourreau dut la prendre dans ses bras pour la monter à l'échafaud. Mais au moment où le couperet allait tomber, un cri affreux, inhumain, sortit de sa gorge, un cri dans lequel passait l'agonie, passait l'angoisse de son agonie. Un instant, excusez-moi. Si nous ne pouvons pas accorder beaucoup d'estime à Madame du Barry, de quel droit refuserions-nous pitié pour Jacques Bécu? Un dernier mot. Pour sa succession, qui fut âprement disputée. Finalement, une grande partie de l'écrin échut au dernier frère du Rouet, Élie du Barry, devenu, par la grâce du roi Louis XVI, marquis d'Argicourt. Il eut une fille qui épousa le comte de Narbonne-Lara. Celle-ci, refusant de se parer des bijoux de la favorite de Louis XV, donna discrètement ses pierres précieuses à la basilique Saint-Cernin. Elles ornent un admirable ostensoir montré seulement lors des grandes fêtes. Ce sera ma conclusion. Les milliers de feux qu'il fait alors briller dans l'ombre sainte sont peut-être la muette prière implorant le pardon de tant de péchés charnels. Merci.